Je voudrais commencer par remercier Patrick Boucheron et Paulin Ismail de m'avoir invité à ce privilège qu'est la discussion que nous pouvons avoir aujourd'hui. Alors évidemment, on n'en ressort pas indemne. J'ai suivi les cours de Pierre Lévêque à l'Université de Besançon quand j'ai commencé mes études d'histoire il y a bien longtemps. J'ai lu beaucoup Vidal-Naquet et Vernon, et d'un seul coup, je m'aperçois qu'il va falloir que je relise tout et je me demande si j'aurai le temps de le faire. Donc voilà. Alors, Castoriadis écrit, et c'est une citation auquel tu as fait allusion tout à l'heure, Paulin, « Le juger et le choisir, en un sens radical, ont été créés en Grèce, et c'est là l'un des sens de la création grecque de la politique et de la philosophie. Par politique, je n'entends pas les intrigues de cour ni les luttes entre groupes sociaux qui défendent leurs intérêts ou leurs positions, mais une activité collective dont l'objet est l'institution de la société en tant que telle. C'est en Grèce que nous avons le premier exemple d'une société délibérant explicitement au sujet de ses lois et changeant ses lois. Ailleurs, les lois sont héritées des ancêtres ou données par les dieux, mais ne sont pas créées par des hommes à la suite d'une confrontation et d'une discussion collective sur les bonnes et les mauvaises lois. » Alors, est-ce qu'une citation comme celle-là est représentative de la façon dont la théorie politique contemporaine envisage la Grèce et essaye de s'en servir? C'est loin d'être le cas. Bien sûr, quand on pense au manuel que nous avons utilisé au lycée, que nous utilisons au lycée, on a deux variantes. D'une part, il y a la variante « la mort de Socrate, le sage philosophe, sacrifié par un peuple irrationnel ». On a également la variante de la démocratie fondée à Athènes, ressurgissant au moment de l'expérience communale médiévale, et puis arrivant à maturité à partir des révolutions de la fin du XVIIIe siècle. Et cette deuxième variante est répétée de façon plus ou moins routinière, y compris par des spécialistes reconnus, par exemple John Dunne, le grand théoricien politique de Cambridge, qui publie une histoire de la démocratie en 2005, reprend ce que, quelque part, nous savons tous à partir du lycée. La spécificité de Castoriadis, c'est d'élaborer un vrai travail sur Athènes et de s'appuyer sur l'expérience grecque pour relativiser le présent. Cependant, une telle manière de faire n'est pas majoritaire, elle n'est pas unique, mais elle est minoritaire. Lorsque l'on n'analyse plus les manuels, mais la pensée théorique vivante, il me semble que trois grandes attitudes se dégagent dans le rapport à l'expérience athénienne. La première attitude, c'est celle de l'oubli. On ne fait au mieux que la mentionner pour mémoire. On a retenu les manuels, mais on s'en débarrasse vite pour passer aux choses sérieuses. La deuxième manière de se lier à Athènes, et ce que j'appellerais l'usage métaphorique. Athènes ne vaut pas pour elle-même, il s'agit d'un exemple historique concret que l'on n'approfondit pas et qui est là pour parler d'autre chose, par exemple de la vraie démocratie. Et puis la troisième manière de faire est celle de la réflexion théorique, c'est seulement dans ce troisième type qu'Athènes est une expérience qui est source de réflexion théorique sur la politique et la démocratie au XXIe siècle. Or, ces trois attitudes ne sont pas distribuées au hasard. Adopter l'une ou l'autre dépend en particulier beaucoup du rapport que l'auteur noue avec la modernité politique occidentale. Et c'est ce que je voudrais démontrer dans cet exposé, du moins à partir d'un corpus relativement précis. Ma démonstration ne vaut pas pour l'ensemble de la théorie politique. Je m'intéresserai exclusivement aux œuvres de théoriciens du politique, qu'ils soient philosophes ou qu'ils appartiennent à la science politique, publiées depuis quatre décennies. Grosso modo, depuis le milieu des années 1970, après les années 68, donc quatre décennies marquées par l'apaisement post-68, une démocratisation culturelle, une mutation sociétale énorme, la montée du néolibéralisme et l'écroulement du communisme historique, le recul de la culture classique dans l'éducation primaire et secondaire, et puis plus tardivement par la montée du Sud global. Donc je parle d'une production théorique qui vient après Hannah Arendt, et en quelque sorte, ce que je vais dire est une note de bas de page à ce que Carole Wienmayer dira, c'est la note de bas de page à la fin que vous allez avoir en antépremière. Et je procéderai en trois temps. Dans une première partie, j'analyserai celles et ceux qui font de la modernité politique occidentale le point de départ de l'élaboration de théorie politique. Dans un deuxième temps, je me pencherai sur celles et ceux qui proposent une déconstruction de cette modernité politique occidentale ou qui veulent lui opposer une alternative. Et dans un troisième temps, j'étudierai celles et ceux qui intègrent cette modernité politique occidentale dans une perspective plus vaste. Et pour annoncer tout de suite la thèse que je voudrais défendre, il me semble que, pour les premiers, la position qui prédomine est celle de l'oubli, que pour les seconds qui veulent déconstruire ou proposer une alternative, l'usage est surtout métaphorique, et que pour les troisièmes qui veulent intégrer la modernité politique occidentale dans une perspective plus vaste, proportionnellement, la réflexion théorique est plus répandue. Alors tout d'abord, donc, celles et ceux qui proposent la modernité politique occidentale comme point de départ fondamental dans l'élaboration d'une théorie politique. C'est, à l'échelle internationale, la position qui, de loin, est majoritaire chez les théoriciens du politique. Ce n'est pas complètement trivial de le rappeler. Dans les manuels de notre jeunesse, pour celles et ceux d'entre nous qui ont les cheveux blancs ou gris, dans l'histoire de la démocratie à la John Dewey, on a une tradition occidentale inventée, pour reprendre la parole d'Hobsbawm, où il y a une sorte de continuité d'Athènes à nos jours, au-delà des éclipses. Or, dans les quatre dernières décennies, l'une des caractéristiques de ces théoriciens du politique, peut-être est-ce un effet à retardement des expériences totalitaires du XXe siècle, des guerres mondiales, et d'être moins naïvement eurocentrique et plus précautionneux dans l'établissement de filiations. Et d'une certaine manière, on passe de l'histoire occidentale à un focus sur la modernité politique occidentale. Le déplacement peut paraître subtil, mais il est significatif pour notre sujet d'aujourd'hui. Car ce qui frappe lorsqu'on lit les philosophes politiques autour desquels les débats se sont largement structurés au cours des quatre dernières décennies, c'est qu'Athènes est largement oublié. Au mieux, l'expérience athénienne est mentionnée en passant, comme une préhistoire sans grande importance. Le nom d'Aristote surnage, mais il joue un rôle finalement marginal ou secondaire, et cela est vrai dans des perspectives très diverses, libérales, républicaines, marxistes ou néo-marxistes. Prenons par exemple les deux monstres de la philosophie politique à l'échelle internationale, John Rawls d'un côté, Jürgen Habermas de l'autre, Athènes et Torchan. Finalement, c'est avec le parlementarisme, les Lumières, les Révolutions que commence véritablement la modernité politique et l'histoire de la démocratie. D'ailleurs, dans les années 1980 et 1990, les adversaires dits communautariens de John Rawls dans le monde anglo-saxon avaient, par rapport à Athènes, une position assez similaire. On peut citer le philosophe Michael Sandel de Harvard, Charles Taylor de Montréal, Michael Walzer de Princeton. Ils ne sont guère différents. Et quand on va au-delà, ou en deçà plus exactement, de la modernité politique, c'est plus pour Walzer à l'expérience juive qu'à l'expérience athénienne qu'il est fait référence. D'une façon différente, il en va de même pour le gros de ce qu'on a appelé le courant républicain dans le monde anglo-saxon, à l'exception notable de Pocock. À commencer par la fameuse école de Cambridge, qui peut être une certaine importance dans le cadre de ce séminaire, car elle réhabilite dans une perspective d'histoire des idées politiques l'expérience communale, médiévale et renaissante. Quentin Skinner lui-même, qui est, disons, le plus important de cette école, publie en 1978, son ouvrage majeur, Les fondations de la pensée politique moderne, volume 1, La Renaissance, volume 2, L'âge de la réforme. Le titre et le sous-titre parlent d'eux-mêmes. On parle de la modernité. Vous me direz, c'est normal, c'est un moderniste. Mais en même temps, lorsqu'il remonte 20 ans plus tard à la période classique, c'est à Rome qu'il va se référer et non pas à Athènes. Et la collection Ideas in Context, aux presses universitaires de Cambridge, qui est la principale, le principal lieu d'histoire des idées politiques à l'échelle internationale, laisse très largement Athènes de côté, presque complètement en fait. C'est vrai d'ailleurs pour le philosophe politique qui fait alliance en quelque sorte avec l'historien des idées politiques Skinner, qu'est Skinner, Philippe Petit, là encore, ne donne que très peu d'importance à l'expérience athénienne. Et si on va de l'autre côté de la Manche et du Rhin, l'histoire politique allemande, dans la lignée de Kozelek, l'histoire conceptuelle du politique, et là encore, aborde Athènes, mais de façon finalement rapide. On pourrait d'ailleurs en dire autant pour des philosophes politiques ou des historiens du politique français. Pensons à Claude Lefort, à Pierre Rosanvallon, professeur également ici, à Marcel Gauchet, hautes études. Athènes ne joue qu'un rôle mineur ou qu'un tout petit rôle. Pensons à Claude Lefort. Il reprend l'idée que tu as déjà évoquée tout à l'heure du pouvoir politique comme un lieu vide, mais il ne le situe plus au milieu du corps social, mais à l'extérieur. Il ne s'agit plus d'un autogouvernement, mais d'un gouvernement représentatif. Situer le pouvoir vide au milieu du corps social ferait courir le risque du totalitarisme, ce qui est d'ailleurs paradoxal, Athènes pouvant difficilement être qualifié de proto-totalitaire. Et on pourrait multiplier les noms, Nadia Urbinati aux États-Unis, à Columbia, le féminisme libéral ou anglo-saxon. Ce qui est intéressant, c'est qu'y compris les théoriciens marxistes ou post-marxistes et conseillistes se situent généralement dans une optique qui n'est pas très différente. Prenez Étienne Balibar en France, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, le populisme de gauche à l'échelle internationale, Tony Negri et Michael Hart, les théoriciens de l'altermondialiste, voire Martin Brough, qui fait un beau livre sur l'expérience plébéienne et qui l'a fait dans une perspective conseilliste, et pour lequel la Commune de Paris joue un rôle important, mais il fait commencer l'expérience à Rome et non pas à Athènes. Pour tous ces théoriciens, la réflexion sur la politique et la démocratie est fondamentalement liée à la modernité politique occidentale, c'est-à-dire l'état de droit, les droits humains, le gouvernement représentatif, le suffrage universel, l'état-nation, ou des structures supranationales conçues sur un mode fédéraliste, mais imité de l'état-nation, et puis dans les variantes marxistes, le socialisme et le mouvement ouvrier. Il n'en va que peu différemment de la part des politistes. Athènes est présente, mais n'importe que par le contraste qu'elle permet d'établir avec la modernité politique occidentale. Ces études de politistes suivent de façon assez étonnante un topos établi par Benjamin Constant en 1819 dans son fameux essai sur la liberté des anciens et la liberté des modernes. La liberté des anciens, disait Constant, consistait dans l'exercice collectif et direct de la souveraineté grâce à une participation active et constante au pouvoir collectif de tous les citoyens. Une telle liberté n'était possible que dans de petites communautés, de mœurs homogènes, en perpétuel état de guerre et où l'esclavage permettait aux citoyens de se consacrer à la chose publique. Dans les États modernes étendus, portés à la paix et au commerce, libérés de l'esclavage, les hommes libres n'ont plus un tel loisir. La liberté des modernes est donc essentiellement négative. Elle consiste à ne pas craindre l'intervention abusive de l'État dans les affaires privées. Elle inclut certes aussi le droit d'influer sur les représentants à travers l'élection et l'opinion publique, mais l'objectif principal est bien de réserver le plus de temps possible à la jouissance paisible de l'indépendance privée en se déchargeant sur quelques-uns des fonctions de gouvernement. Or, on s'aperçoit que les théoriciens politiques vont conserver ce schéma-là et cette opposition binaire. On peut citer deux parmi les plus connus, Robert Dahl et Norberto Bobbio aux États-Unis et en Italie, qui commencent leur œuvre dans les années 60, mais dans les années 80 et 90, qui sont celles qui m'intéressent, il continue à avoir ce même schéma. On passe fondamentalement d'un premier temps qui est celui de l'échelle communale et de l'autogouvernement à un deuxième temps qui est celui des États-nations et du gouvernement représentatif. Il y a cependant une exception. Elle est française et paradoxale. Il s'agit de l'ouvrage de Bernard Manin, principe du gouvernement représentatif en 1995, qui va trouver un écho important à l'échelle internationale, assez étonnant pour un politiste français. Il a une vraie connaissance d'Athènes, il s'en sert pour une vraie réflexion théorique, et il brosse une fresque historique qui oppose le tirage au sort et l'élection, dans une dichotomie qui reprend l'une des manières avec laquelle Aristote a conceptualisé ces deux procédures. Il est considéré comme démocratique que les magistratures soient attribuées par le sort et comme oligarchique qu'elles soient électives. D'autres choses, enfin d'autres manières de conceptualiser cela sont également présentes chez Aristote, mais Manin s'attache à cette définition, disons, essentielle de la signification politique de ces deux procédures, et écrit par exemple, pour un autre moment communal, ayant introduit le tirage au sort pour lutter contre les factions, les Florentins avaient, en définitive, redécouvert par l'expérience l'ancienne idée des démocrates athéniens, le sort est plus démocratique que l'élection. Pourquoi, dans cette perspective, les modernes n'ont-ils pas, au moment des révolutions françaises et américaines, introduit le tirage au sort en politique à la chute de des anciens régimes? C'est parce qu'ils ne voulaient pas de démocratie, mais une aristocratie élective où les meilleurs, les élus, gouvernaient, mais où les meilleurs n'étaient plus définis par leur titre de noblesse, mais élus par le plus grand nombre, les citoyens, avec du coup un gouvernement mixte, semi-aristocratique et semi-démocratique, aristocratique parce que c'est une petite minorité qui gouverne, mais avec un certain contrôle de la part du grand nombre. Mais Bernard Manin restait quelque part dans le schéma de Benjamin Constant. Athènes était prise au sérieux, mais c'était pour faire un éloge du gouvernement représentatif et de sa résilience. Or, parce qu'Athènes était prise au sérieux, Bernard Manin a été élu à contresens par beaucoup de personnes dans l'académie, mais aussi dans le monde civique, et beaucoup se sont servis pour critiquer le gouvernement représentatif au nom d'une démocratisation de la démocratie qui devrait avoir recours au tirage au sort. Et on en a eu des échos jusque dans les dernières élections présidentielles françaises avec la reprise de cette idée par certains candidats. Je voudrais maintenant passer à ma deuxième partie qui porte sur les auteurs qui déconstruisent cette modernité politique occidentale ou qui proposent une alternative à celle-ci. Lorsque l'on s'attache à ces auteurs, le panorama est très différent de celui des auteurs, disons, focalisés sur la démocratie occidentale moderne. Nombreux sont ceux qui vont faire référence à Athènes. Ils vont jouer la Grèce contre les démocraties occidentales modernes ou comme un instrument pour les déconstruire, mais l'usage qui prédomine est, me semble-t-il, d'abord d'ordre métaphorique. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'agit d'une Grèce inventée, mais disons qu'il est question d'une Grèce vue d'assez loin, voire de très loin. Et je voudrais en donner quelques exemples. Commençons par le plus célèbre d'entre eux, Michel Foucault. Le Foucault le plus politique, celui qui a une influence énorme à l'échelle internationale sur la théorie politique et sur l'analyse de la politique en général, est le Foucault de la seconde moitié des années 1970, « Surveiller, punir ». En 1975, la volonté de savoir, les écrits sur la biopolitique et la gouvernementalité qu'il tient ici même, pas dans cette salle, mais au Collège de France entre 1975 et 1980. La Grèce n'y joue qu'un rôle marginal, un petit peu pour la métaphore pastorale, l'Athènes démocratique est totalement en dehors de ce champ. Par contre, avec son tournant éthique dans les années 1980, les dernières de la vie de Michel Foucault, on assiste à un tournant, comme on sait, vers l'Antiquité, mais ce que Foucault va travailler principalement, c'est l'éthique et pas la politique. Il est beaucoup moins influent pour les études politiques dans cette deuxième période que dans la période précédente. Il y a cependant une exception majeure dans ce disons, contournement de la politique du dernier Foucault, c'est la notion de parésia, qui est étudiée dans les cours au Collège de France de 1982-1983 et dans des conférences à Berkeley à l'automne 83. La parésia, c'est le parler vrai, la parole qui va au-delà du discours rationnel, au-delà du dialogue, c'est la parole sauvage, entre guillemets, ou d'une qui a une potentialité sauvage. Mais Michel Foucault ne s'intéresse pas vraiment à la parésia qu'il nomme la parésia comme structure politique, celle qui peut s'énoncer à l'Assemblée ou dans le rapport entre l'Assemblée et le théâtre, même s'il reconnaît son existence. Il privilégie d'autres usages de la parésia. Il part du récit de Plutarque sur Platon s'adressant au tyran de Syracuse pour lui dire la vérité en risquant la mise à mort si le tyran s'offense. Cela constitue une scène de parésia exemplaire, dit Foucault. La parésia n'est plus liée à l'Assemblée démocratique ou à l'espace civique. C'est une manière, citation de Foucault, de dire vrai, qui est telle que l'on ouvre pour soi-même un risque par le fait que ce que l'on dit, vrai. La parésia, c'est le libre courage par lequel on se lie soi-même dans l'acte de dire vrai. C'est l'éthique du dire vrai dans son acte risqué et libre. Si l'on veut, cette notion permet davantage de conceptualiser la parole des dissidents de l'Union soviétique de l'époque, bien plus que une dimension clé de la démocratie. Ce n'est pas cela qui intéresse Foucault. Mais dans l'approche de Foucault, la chronologie politique, les structures et les institutions politiques athéniennes ou grecques ne sont évoquées que de façon assez lâche, et c'est pourquoi je pense, sans que cela soit péjoratif, que la référence à Athènes est largement métaphorique chez ce philosophe, dans son volet politique s'entend. Il en va un peu de même d'un autre grand philosophe français, Jacques Rancière. Celui-ci, après avoir travaillé sur les prolétaires du XIXe, va intégrer Athènes dans sa réflexion quand il relativise son marxisme et devient un théoricien de la démocratie radicale, ce qui n'est pas exactement la même chose, à partir des années 1990. Il part de l'égalité géométrique d'Aristote. Cette égalité géométrique consiste, à l'inverse de l'égalité arithmétique, non pas d'attribuer une part égale ou une valeur égale à tous, à tout un chacun, mais de donner à chacun la part qui lui correspond en fonction de ses besoins ou de ses mérites. Il s'agit potentiellement d'une optique méritocratique, et plus généralement, c'est l'optique de ce que Jacques Rancière va appeler la polis. On part d'un ordre inégal dans lequel on va insérer une justice distributive. Et à l'inverse de la polis, pour reprendre l'expression ou la notion de Rancière, la politique est pour lui, au contraire, la contestation radicale de ces hiérarchies. La politique, c'est l'idée que nul n'a de titre particulier à gouverner, que leur condition anthropologique d'être de langage fait des humains, des égaux, de façon radicale. D'où une contestation frontale du gouvernement représentatif qui constitue l'axe de gravité des théories politiques que j'avais évoquées dans la première partie, d'où aussi l'éloge par Rancière du tirage au sort. Rancière écrit « Le scandale de la démocratie et du tirage au sort qui en est l'essence, en référence à Athènes, est de révéler que le gouvernement des sociétés ne peut reposer en dernier ressort que sur sa propre contingence. » Il rejoint donc Bernard Manin sur la caractérisation que l'on peut dire essentialiste de l'instrument, mais avec une conclusion philosophico-politique opposée. Il s'agit d'une promotion, d'une défense de la démocratie radicale, suivant l'exemple athénien, et d'une critique de la démocratie représentative que Rancière complète par une critique de la critique platonicienne de la démocratie. Il faut cependant convenir que le rapport à Athènes et à la Grèce historique est, là encore, métaphorique. Bien plus encore que chez Michel Foucault, il s'agit de scènes mythiques dans laquelle, d'ailleurs, la refondation clisthénienne joue un rôle non négligeable. Il n'y a pas d'analyse socio-historique réelle de l'Athènes classique. Athènes, c'est finalement le lieu mythique de la démocratie plutôt qu'une expérience historique concrète avec sa part d'ambivalence que d'ailleurs les mutations de l'historiographie qui étaient évoquées à l'instant démontrent bien, me semble-t-il. On pourrait en dire autant d'Alain Badiou, où la référence à Platon, très marquée, a chez lui une double fonction. D'une part, elle parle à celles et ceux qui ont suivi des cours de philosophie en terminale, elle fait donc vendre les livres, et d'autre part, elle donne une légitimité philosophique noble à une avant-garde léniniste. Là encore, l'Athènes historique n'est qu'une métaphore inversée par rapport à celle de Rancière. C'est le lieu mythique qui justifie une perspective paradoxale d'émancipation autoritaire impulsée par une avant-garde savante et politique à la fois. Il faudrait aussi mentionner, mais je n'ai pas le temps de m'y attarder, McIntyre, un des grands critiques anglo-saxons de John Rawls, qui propose de reprendre Aristote dans une perspective augustinienne. Cela ne veut pourtant pas dire que tous les penseurs qui entendent déconstruire la modernité politique occidentale ou proposer une alternative fassent cet usage d'Athènes. Il y a une série de théoriciens du politique qui sont plutôt sur la ligne de l'oubli, des penseurs conservateurs réactionnaires, sur des bases religieuses notamment. À l'inverse, l'anthropologie politique anarchiste d'un James Scott, qui pense l'État contre la société à partir des sociétés de chasseurs-cueilleurs, mais qui ne parle pas du tout, ou quasiment pas, de l'Athènes classique. Certains courants écologistes, par exemple Bruno Latour, nous n'avons jamais été modernes, pour lesquels, là encore, Athènes ne joue pas un grand rôle, et certains courants post-coloniaux radicaux. Et puis, il y a cette exception, qui est Castoriadis, dont nous avons déjà parlé. Le philosophe découvre Athènes sur le tard. Alors, il est grec, mais il va en parler dans ses écrits de façon tardive, dans les années 70, lorsqu'il abandonne le marxisme, hétérodoxe qu'il défendait jusque-là. Et donc, une des variantes de la modernité politique occidentale pour se faire le théoricien de la démocratie radicale, effectuant un mouvement parallèle à celui de Rancière, mais plus accentué. Il passe alors d'un marxisme autogestionnaire à la démocratie radicale, avec l'institution imaginaire de la société en 1975, et à partir de là, il n'arrêtera pas d'écrire et de publier sur l'expérience athénienne, qu'il va constituer comme un modèle non pas paradigmatique, mais, quelle est l'expression que tu as reprise de lui, comme un germe, qui permet de penser autre chose que le gouvernement représentatif occidental que Castoriadis présente comme une oligarchie libérale et un régime de l'hétéronomie, pour en tout cas une bonne partie des caractéristiques du présent. Castoriadis va lire les historiens de la Grèce, pas seulement les philosophes, il va avoir une compréhension beaucoup plus profonde de l'expérience athénienne et grecque que les autres théoriciens du politique. Athènes est l'expérience de l'autogouvernement, est l'expérience de l'autonomie. C'est l'idéal communal qui peut être repris, y compris contre les philosophes grecs de l'époque et contre les théories élitistes contemporaines. L'autogouvernement est présenté par Castoriadis contre les gouvernements représentatifs modernes. Une double limite, cependant, dans l'approche de Castoriadis, il a, comme la citation que j'avais donnée initialement dans cet exposé, un dédain pour la politique comme lutte pour le pouvoir, pour les méandres de la politique politicienne athénienne. Du coup, il livre certaines interprétations étonnantes, par exemple du fameux discours de Périclès auquel il a été fait allusion. Et dans le même ordre d'idées, il a également un dédain pour les institutions, et en particulier l'instrument qu'est le tirage au sort n'est évoqué qu'en passant. Il me semble que c'est pour cela que Castoriadis a une influence somme toute limitée par rapport à la densité de ses écrits philosophiques sur les historiens de la Grèce. Cependant, il n'y a pas de doute que ces écrits vont au-delà d'une lecture métaphorique d'Athènes. Il s'agit bien d'une réflexion théorique au sens fort du terme, que l'on peut bien sûr contester, sur la politique et la démocratie, où Athènes joue un rôle central. La deuxième limite de l'approche de Castoriadis, avec le recul de quelques années dont nous pouvons bénéficier, c'est qu'elle est totalement eurocentrique. Rappelez-vous la citation initiale, « La politique s'est inventée en Grèce, la philosophie s'est inventée en Grèce ». Les références historiques de Castoriadis sont des références d'avant l'histoire globale, et c'est ce qui change en partie au moins avec les auteurs que je vais aborder dans la troisième partie, qui va donc porter sur ceux et celles qui proposent d'intégrer la modernité politique occidentale dans une perspective plus large. Le panorama du rapport à Athènes se diversifie lorsque l'on passe à ces auteurs, à ce troisième type d'auteurs. Ce sont des auteurs moins connus que les grands noms que sont Habermas, Rawls, Foucault, Rancière ou Castoriadis. Ils proposent des théories fort diverses qui entendent relativiser la modernité politique occidentale sans la déconstruire ou la nier, ou lui opposer une alternative. Ces théories visent à prendre la distance avec ce qui est aujourd'hui tenu pour évident, à savoir que le bon régime, c'est la démocratie, et que la démocratie, c'est les droits humains, l'état de droit et la démocratie représentative. Et ces auteurs visent à intégrer certains éléments de la modernité politique occidentale aux côtés d'autres, différents, venus d'époques ou de régions du monde, qui ne sont pas au centre de l'attention des auteurs de la première partie. Ils visent également à montrer les circulations entre régions et les réémergences de thématiques anciennes que l'on pensait disparues pour réfléchir sur la politique et la démocratie au XXIe siècle. Dans cette optique, deux courants assez différents, même s'ils ne sont pas contradictoires, ont recours au passé prémoderne pour penser le XXIe siècle. Le premier, parfois qualifié de néo-médiévaliste, entend conceptualiser la gouvernance mondiale au-delà de la souveraineté nationale. L'ordre international est alors, et y compris du coup national, est alors caractérisé par une juxtaposition compliquée de normes plutôt que par une hiérarchie claire et pyramidale, bien ordonnée de normes telles que postulées par le constitutionnalisme classique. Ces courants du pluralisme juridique, du néo-constitutionnalisme, en particulier en Amérique latine, ont cependant pour point de référence historique prémoderne davantage l'Empire ou les communes médiévales plutôt qu'Athènes. Et je le laisserai de côté ici. Le second courant, par contre, fait une référence centrale à Athènes pour penser un nouveau régime politico-institutionnel, une nouvelle constitution mixte allant au-delà du simple gouvernement représentatif et qui articulerait élections, assemblées du type celle de Nuit debout auxquelles nous avons fait allusion et tirage au sort. Rappelons que la tripartition des Grecs passait fondamentalement par le nombre de personnes qui participaient au gouvernement, une personne, un petit nombre ou un grand nombre, monarchie, aristocratie, démocratie. En Angleterre, c'était à l'époque moderne transformer cette trilogie en s'incarnant dans des institutions spécifiques. Le roi représentant le pouvoir de l'un, la Chambre des Lords étant pensée comme représentant le pouvoir du petit nombre et la Chambre des communes comme le pouvoir du grand nombre. Puis, avec les révolutions, en particulier la révolution américaine, l'idée du check and balance, de la séparation des trois pouvoirs, a largement rompu avec l'idée originale des Grecs des formes de gouvernement ordonnées par le nombre des gouvernants. Et aujourd'hui, en quelque sorte, ces théories politiques proposent une nouvelle version où le gouvernement mixte passe par une alliance ou une combinaison entre l'élection qui favorise le pouvoir du petit nombre, d'une aristocratie élective, pour reprendre les paroles des pères fondateurs de la République américaine, et une démocratie directe passant soit par l'Assemblée, des référendums d'initiative populaire, ou le tirage au sort qui permet le pouvoir du grand nombre. Ces théories, plus globalement, proposent d'historiciser les deux derniers siècles de l'histoire politique occidentale, un peu à la manière dont nous nous proposons d'historiciser Athènes dans la perspective de la théorie politique, qui n'est pas celle des historiens. L'expérience de la modernité politique occidentale contient des éléments universalisables et d'autres qui ne le sont pas. Elle ne dit pas tout sur la politique et la démocratie au XXIe siècle. Nous sommes tous spontanément d'accord pour dire qu'il y a des choses qui nous parlent encore dans l'expérience athénienne, au-delà de toutes les différences, ne serait-ce simplement que le mot de démocratie, mais nous sommes aussi tous, ou quasiment tous, d'accord pour dire qu'on ne peut pas reproposer le modèle politique athénien tel quel pour résoudre les problèmes du présent. Et bien là, par analogie, l'idée est de dire que la politique du XXIe siècle sera elle aussi différente de celle du XIXe et du XXe siècle. On retrouve dans ce courant des politistes, des juristes, des sociologues, des philosophes. Il s'agit d'un courant plus que d'auteurs individuels, du type de ceux que j'ai évoqués précédemment, du fait de la division académique du travail et du fait que ce sont sans doute des auteurs d'un rang plus secondaire par rapport à ces grands noms que j'ai évoqués. On peut citer, par exemple, l'ancienne présidente de l'Association américaine de sciences politiques, James Mainbridge, l'ancien président de l'Association américaine de sociologie, Eric Olin Wright, l'ancien président de l'Association allemande de sciences politiques, Hubertus Burstein, mais aussi peut-être un jeune philosophe comme Arnaud Massé de l'Université de Franche-Comté, dont nous avons déjà entendu parler aujourd'hui. En particulier, il faut noter que le principal courant de la théorie politique contemporaine, anglo-saxonne, mais du coup aussi internationale, du fait de l'hégémonie sur le champ académique des États-Unis et de l'Angleterre, est le courant dit de la démocratie délibérative, qui se décrit volontiers comme néo-athénien. Il propose, en effet, de constituer des mini-publics tirés au sort pour donner un avis, voire décider, sur des thèmes d'intérêt général. Et ce courant est lié à des expérimentations pratiques, je n'en cite qu'une seule. Les Irlandais, en 2015, ont adopté un amendement constitutionnel constitutionnalisant le mariage pour tous. Cet amendement avait été proposé par une assemblée citoyenne majoritairement tirée au sort, qui avait transmis sa proposition au Parlement, qui l'avait soumise à référendum. On peut citer James Fishkin, qui, de loin, n'est pas le plus profond des penseurs de ce courant, mais qui a le mérite, disons, de mettre les pieds dans le plat et d'avoir des gros sabots. Fishkin invente un dispositif qu'il appelle le sondage délibératif. Au lieu de faire un sondage en interrogeant des gens, chacun chez eux, dans le privé, entre guillemets, on a le même échantillon représentatif que dans les sondages, mais on rassemble tous ces gens en un même lieu, on leur donne un matériel soigneusement balancé avec le pour et le contre, on leur fait procéder à des auditions d'experts et de parties prenantes contradictoires, on multiplie les délibérations en assemblée générale et en petits groupes, et à l'issue de ce processus, l'opinion qui ressort de cet échantillon représentatif et l'opinion de ce que pourrait penser le peuple s'il avait eu les moyens de discuter dans des conditions quasi idéales. Et Fishkin dit de cet instrument, mais on pourrait multiplier les citations d'autres personnes qui s'inscrivent dans ce courant, « Le sondage délibératif est une solution néo-athénienne. Les mots principaux de la démocratie moderne peuvent trouver une réponse constructive dans des raffinements modernes et des améliorations » de deux composantes essentielles de la solution athénienne classique, le tirage au sort et la délibération. Alors, au-delà de Fishkin lui-même, il n'est pas d'ailleurs celui qui le fait le plus, une collaboration croissante s'établit avec les historiens dans cette perspective. Il s'agit de comprendre les conditions nécessaires, les contextes de fonctionnement, les principaux défis de dynamique politique démocratique qui ne se réduisent pas à l'élection. L'expérience athénienne, de ce point de vue, est considérée comme un moment important, précieux, un tremplin pour la réflexion théorique. Du moins jusqu'à un certain point et pour l'instant. En effet, cette perspective est confrontée à deux défis. Le premier défi, c'est celui de ne pas tomber dans un usage métaphorique d'Athènes. L'usage métaphorique d'Athènes, me semble-t-il, est un péché véniel pour des philosophes qui visent d'abord à donner des concepts au-delà, finalement, de l'empirie plate des historiens, des sociologues ou des politistes. Mais il s'agit d'un péché mortel pour des politistes qui sont en interaction constante avec leurs collègues empiristes qui pratiquent la sociologie politique ou l'histoire politique. Or, une certaine tradition anglo-saxonne de théorie politique normative s'encombre peu d'un rapport serré à l'histoire et à la sociologie politique. L'exemple du tirage au sort est, de ce point de vue-là, tout à fait significatif. On risque de passer sous silence les différences énormes qui existaient entre le tirage au sort à l'époque d'Athènes, qui permettait, grâce à la rotation rapide des charges, à tout un chacun d'être tour à tour gouvernant et gouverné, et quelque chose comme le sondage délibératif, où seule une petite partie des citoyens peut participer à cette expérience et où on a une opinion publique contrefactuelle à partir d'un échantillon représentatif, une notion qui était inconnue des Athéniens. Et du coup, c'est quelque chose qui est très différent en termes d'éducation civique et de rapport de force entre le grand nombre et le petit nombre. Le deuxième défi, c'est comment œuvrer dans le domaine de la théorie politique à un élargissement géographique de la perspective au-delà de l'Occident, à la manière de l'histoire globale ou de l'histoire connectée. Pour l'instant, la théorie politique est très en retard par rapport à mes collègues historiens, dont celui qui est assis à ma droite et qui représente l'exemple le plus fameux ici. Il y a des tentatives qui sont encore balbutiantes, mais tendanciellement, il me semble que cette évolution est à la fois souhaitable et inévitable. Or, quand cela sera fait, la relativisation de la référence à Athènes sera logique. Et Athènes pourrait même tomber dans l'oubli. On en a des signes aujourd'hui. L'un des courants les plus en pointe dans la tentative de présenter une théorie politique non occidentale est représenté par les philosophes néo-confucéens, qui essayent d'articuler l'état de droit occidental avec une méritocratie qui s'inspire de Confucius, des grands philosophes confucéens et de l'expérience politique chinoise. Des noms comme Joseph Chan de l'université de Hong Kong, Tong Dongbai de l'université Fudan à Shanghai ou Daniel Bell de l'université Tsinghua à Pékin. Ces philosophes, par rapport à Athènes, oscillent entre l'oubli et l'usage métaphorique. Souvent, ils se contentent de saisir les objections de Platon à la démocratie et de proposer en reconstruction alternative une méritocratie reposant sur les écrits confucéens. On peut donner d'autres exemples allant dans des sens différents, éthico-politiques, mais tendant aussi à oublier Athènes, Chakrabarti et les modernités multiples d'Eisenstadt, le féminisme radical ou les courants féministes non occidentaux. La relativisation d'Athènes dans le mouvement de constitution d'une théorie politique globale et non eurocentrique est inévitable, mais son oubli ou son usage purement métaphorique ne l'est pas. On peut ainsi évoquer Marcel Détienne et le groupe collectif qui avait abouti au livre « Qui veut prendre la parole » en 2003, un helléniste était au cœur d'une entreprise qui visait à démontrer que la politique n'avait pas été créée de façon unique à Athènes, mais que la prise de la parole était quelque chose de très largement répandu dans des sociétés extrêmement différentes, qu'elle avait été portée à un degré réflexif sans doute plus important à Athènes, mais que ce n'était pas un monopole occidental. On pourrait aussi citer Amartya Sen, un grand philosophe d'origine indienne aux États-Unis et prix Nobel d'économie, « La démocratie des autres, pourquoi la liberté n'est pas une invention de l'Occident », publié dans sa version française en 2006. Ou encore Wang Shaoguang, l'un des théoriciens politiques chinois les plus connus, qui propose une autre voie de démocratisation pour la Chine qu'une simple importation du gouvernement représentatif occidental. Professeur à l'université chinoise de Hong Kong. Il est l'auteur de l'un des meilleurs ouvrages sur l'histoire et la théorie politique du tirage au sort qui existe aujourd'hui à l'échelle internationale et qu'il propose comme l'une des voies qui permettrait de démocratiser la Chine. Il prend l'expérience athénienne très au sérieux, non dans un usage métaphorique, mais comme la source d'une réflexion théorique. L'ouvrage sera publié très prochainement en chinois et il inaugure peut-être une ère nouvelle par rapport à l'expérience athénienne. Je vous remercie.